Bien, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons reprendre la fin du chapitre 12 et lire jusqu'au verset 10 du chapitre 13. Donc, nous lisons à partir du verset 13 du chapitre 12, pour nous remettre un peu dans le contexte. Et nous allons surtout voir la première partie du chapitre 13. Apocalypse 12, à partir du verset 13, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. » Mais la terre secourut la femme, et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa force, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et jusque-là, la lecture de la parole. La dernière fois, nous avons étudié donc, le chapitre 12 et nous avons vu le combat que mène Satan contre l'Église. Et une question m'avait été posée au sujet de la femme et de sa postérité. Est-ce qu'on peut faire une différence entre la femme et le reste de sa postérité? Et sans aller trop dans les détails, on peut faire une distinction. Dans ce sens que la femme, nous l'avons vu, décrit l'Église universelle. On la voit avant qu'elle ne donne naissance au Fils et on la voit après qu'elle ait donné naissance au Fils. Elle se parle donc d'une seule Église, d'un seul peuple de Dieu, composé des croyants avant la venue de Christ et après la venue de Christ. Cette Église qui est protégée, qui est gardée, personne ne peut la détruire. Personne ne peut détruire cette Église. Elle est nourrie, elle est mise à part, elle est protégée. Mais il y a aussi une autre réalité. C'est qu'une partie de l'Église, aujourd'hui, est encore dans ce monde. Et l'adversaire, comme nous l'avons lu, va faire la guerre au reste de la postérité. Et donc la postérité, le reste de la postérité de la femme décrirait l'Église militante, l'Église qui est encore sur terre et qui doit faire face aux assauts de l'adversaire, sachant tout de même que l'Église ne sera jamais détruite. Donc il y a les deux images qui sont mises ici, qui sont soulignées. L'Église est en sécurité, elle est nourrie, mais il y a aussi l'autre réalité, que sur terre, pendant notre séjour sur terre, nous devons et nous connaissons les attaques de l'ennemi. Nous avons déjà vu dans le livre de l'Apocalypse que nous ne lisons pas un journal qui nous décrirait l'histoire future, mais à travers toutes les images que nous voyons dans ce livre, et j'espère que cela devient de plus en plus clair, nous apprenons les réalités spirituelles, premier mot sur la feuille, les réalités spirituelles du temps présent, de cette période dans laquelle nous vivons, cette période qui va de la mort, résurrection, ascension de Christ, et jusqu'à son retour dans la gloire. Et c'est quelque chose qu'il faut sans cesse souligner, parce que beaucoup de croyants, peut-être même la majorité des croyants aujourd'hui, ne cherchent même pas à essayer de comprendre ce livre, parce qu'ils sont influencés par une interprétation littérale qui apporte énormément de confusion. Mais j'espère que dans notre étude jusqu'à maintenant, avec l'approche que nous avons, en expliquant les images, nous abordons ce livre et nous comprenons, nous arrivons à comprendre que ce livre décrit les réalités spirituelles que nous connaissons. Et au lieu d'être obscur, au lieu d'apporter la confusion, ce livre et ces chapitres que nous étudions sont en fait un encouragement pour les croyants. Et on devrait connaître ces images comme on connaît d'autres images dans la parole de Dieu, qui sont par exemple les paraboles que le Seigneur Jésus-Christ a racontées. Et en ayant lu le chapitre 12, en ayant étudié le chapitre 12, on peut se dire, en voyant la situation dans laquelle on vit, mais voilà ce qui se passe dans le monde. Voilà la réalité. Nous avons un ennemi. Nous avons quelqu'un qui s'oppose à Christ, qui s'oppose à l'Église. Mais cet ennemi ne peut pas vaincre le Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, c'est l'ennemi qui est vaincu. Il est en colère à cause de cela. Et il sait qu'il a peu de temps. Et c'est pour ça qu'il persécute l'Église. L'image est claire. L'image est très claire. Mais nous devons aussi nous rappeler que les symboles dans l'Apocalypse doivent être correctement interprétés. Et on n'interprète pas les symboles de l'Apocalypse en se basant sur les événements que l'on connaît, les événements actuels que l'on peut voir dans le monde, mais en trouvant les parallèles dans l'Ancien Testament. C'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles peu de personnes comprennent ce livre, parce qu'en fait, elles ne maîtrisent pas, elles ne comprennent pas l'Ancien Testament. Et on a un exemple ici à la fin du chapitre 12, ce 18e verset. « Il se tint sur le sable de la mer. » Et quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament, en lisant ce verset, il se dira « Là, quelque chose de terrible va arriver. » Quelque chose de terrible va arriver. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, la mer décrit, c'est le symbole du chaos, de la rébellion, du mal. Les gens avaient peur de la mer. La mer est une image de l'abîme. Et voilà Satan. Satan, il est vaincu, deuxième mot sur la feuille. Il est vaincu, mais il est décidé à utiliser toutes ses armes. Il ne va pas se rendre sans combattre. Et là, il va appeler hors de l'abîme, hors de l'enfer, hors de ce lieu de chaos et de rébellion. Il va appeler une autre ressource, un autre serviteur, une aide pour son combat contre Dieu et contre l'Église. Le chapitre 11 nous a donné, déjà, nous a abordé cela. Chapitre 11, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et cette bête, au chapitre 11, est décrite du point de vue de l'Église. Ici, au chapitre 13, la même guerre est maintenant décrite du point de vue de l'ennemi. Nous avons deux bêtes dans ce chapitre et ce matin, nous allons nous concentrer sur la première. Premier point donc, la bête qui monte de la mer, verset 1, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez que Daniel, au chapitre 7, avait reçu une vision qui présentait 4 bêtes. Ces bêtes étaient des puissances impériales, terribles, qui allaient se suivre, des royaumes qui allaient persécuter le peuple de Dieu. Et Babylone, la Perse, la Grèce et ensuite Rome. Et à travers cette vision, Dieu avait montré à Daniel qu'il y avait effectivement ces 4 bêtes terribles, ces royaumes qui allaient se succéder. Mais au temps de la 4e, un autre royaume allait s'établir, un royaume qui n'aura jamais de fin. Ce royaume est venu pendant l'Empire romain, et Jean comprend que cela est accompli par la venue du Seigneur Jésus-Christ, par la proclamation, par la propagation de l'Évangile. Jean voit donc cette autre bête qui ressemble aux 4 bêtes de Daniel. Il la voit s'élever lentement de la mer. Et il nous décrit cette bête. Tout d'abord, il va nous décrire les cornes et les diadèmes, 3e mot sur la feuille. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La 4e bête, chez Daniel, représentait Rome, et elle avait 10 cornes. Et Jean ici voit une bête qui a 10 cornes. Il y a une association qui se fait entre les 2 visions. Et c'est très concret pour les croyants du 1er siècle qui, rappelez-vous, vivent sous l'Empire romain. Ils connaissent la persécution. Cette bête que Jean voit ici les renvoie à la 4e bête de Daniel. Mais cette bête ressemble aussi au dragon lui-même que nous avons vu au chapitre 12. Cette bête et le diable ont 7 têtes, 10 cornes et des diadèmes, 10 pour le premier, 7 pour le deuxième. Et ces parallèles lient la bête qui monte de la mer avec Rome. Et il est intéressant de noter que pour arriver dans la région de l'Asie où sont les 7 églises à qui s'adresse le Seigneur Jésus par la plume de Jean, pour arriver à cette région d'Asie, l'Empire, les Romains devaient arriver par la mer. Et voilà la bête impériale romaine qui amène sa puissance par la mer. Donc pour les croyants du 1er siècle, c'est très réel cela. Mais l'équipement que porte cette bête, c'est l'équipement du dragon. Et donc cette puissance est satanique. Elle ne se limite pas à l'Empire romain. L'Empire romain n'est qu'une expression, 4e mot sur la feuille, n'est qu'une expression de cette bête. Jean décrit cette bête comme ayant 10 cornes, 7 têtes et 10 diadèmes sur ses cornes et des noms de blasphème sur ses têtes. On n'a pas plus de détails à ce niveau-là. On verra cela au chapitre 17. Mais sans les détails ici, ce que nous avons, c'est une image générale pour nous donner l'impression générale que voilà, la bête arrive avec des puissances, des gouvernements, des royaumes qui sont sous son contrôle. Dans la vision de Daniel, la 4e bête avait 10 cornes, et on nous dit que ces cornes représentaient 10 rois qui allaient se lever. Ce sont des personnes royales et les diadèmes soulignent cette réalité. La bête porte des diadèmes sur ses cornes. Et dans le chapitre 12, le dragon porte ses diadèmes sur ses têtes. Et certains pensent que cela suggère que le dragon est le roi de l'empire méchant, alors que la bête est la branche militaire de cet empire. Les diadèmes sur les cornes représentent la force de combat. La majorité des commentateurs affirment ici que les 7 têtes de la bête correspondent aux sept empereurs romains qui ont suivi César Auguste, à savoir Tibère, Caligula, Claude, Néron, Vespasien, Titus et Domitien. Mais cette interprétation pose des problèmes. Le premier, par exemple, pourquoi commencer après César Auguste? Pourquoi ne pas commencer avec Jules César? L'autre problème, c'est qu'il y a eu des empereurs moins connus qui n'ont duré que quelques mois. Néron est mort en juin 68 et Vespasien est devenu empereur en décembre 69, même s'il n'est arrivé à Rome que l'année d'après. Mais en décembre 69, il avait un certain Mucien qui était son bras droit, qui était à Rome. Mais entre juin 68 et décembre 69, il y a trois petits empereurs qui n'ont duré que quelques mois, Galba, Othon et Vitellius. Et du coup, on n'a plus sept empereurs, on en a 10. Pourquoi ne pas les compter dans cette liste? Mais comme toujours avec l'Apocalypse, il est préférable de garder l'image générale. Et rappelez-vous que les nombres de 7 et de 10 parlent généralement de quelque chose qui est complet, quelque chose qui est total, quelque chose qui est parfait. L'idée donc ici est de décrire l'exhaustivité de la puissance et de l'autorité de la bête. Quelque chose de complet. Ce n'est pas un officiel de deuxième classe qui apporterait simplement une puissance bureaucratique. Non, nous avons ici affaire avec l'ennemi, le véritable ennemi, cinquième mot sur la feuille. Et sa puissance se voit aujourd'hui, il est puissant. Au verset 2, l'interprétation de Jean souligne l'idée générale de la puissance et de la domination, une domination royale de cette bête. Le dragon, vers la deuxième partie du verset 2, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, le diable, Satan lui donna à cette bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Voilà la signification des diadèmes, de ses cornes et de ses têtes. Un commentateur le résume en disant « La bête qui monte de la mer, est le symbole du pouvoir persécuteur de Satan, qui s'incarne dans toutes les nations et tous les gouvernements du monde, tout au long de l'histoire. Chaque fois que dans l'histoire, les puissances mondiales oppriment le peuple de Dieu, c'est la bête qui se manifeste. » Des cornes et des diadèmes. Ensuite, des noms de blasphème, sixième mot sur la feuille. La bête a des noms de blasphème sur ses têtes. Cela souligne comment les tyrans vont usurper la domination de Dieu. C'était certainement vrai des empereurs romains qui se donnaient des titres, et pas n'importe lesquels. Ils se donnaient le titre de Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Domitien, sur ses pièces, se donne même le titre de Seigneur et Dieu. Des noms de blasphème. Il est intéressant de noter que les premiers empereurs n'ont été déifiés qu'après leur mort. Jules César, Auguste ou Tibère. Mais les empereurs qui ont suivi ont commencé à exiger de leur vivant qu'on le rende inculte. Et le pire d'entre eux étant Domitien, qui a fait bâtir des temples à son honneur, non seulement à Rome, mais même dans les villes d'Asie, comme nous l'avons vu. Et il exigeait qu'on lui offre des sacrifices quotidiennement. Des noms de blasphème. Ensuite, on voit ici que la bête qui continue de monter de la mer, Jean nous l'a décrit, et il montre que c'est bien plus que l'Empire romain. La bête, verset 2, que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Vous avez peut-être remarqué en lisant ce verset que cette bête ressemble aux quatre bêtes que nous avons dans la vision de Daniel, chapitre 7. C'est un assemblage des quatre. Cela souligne que ce n'est pas un empire en particulier, mais c'est bien le phénomène de la bête, c'est bien le principe de la bête qui nous couvre, qui ne se limite pas à un seul empire, mais bien à tous les empires que l'on voit dans l'histoire. La bête que j'en vois, même s'il y a une correspondance avec l'empire romain, cette bête est bien plus grande que l'empire romain. Elle représente tous les empires humains qui se sont opposés à Dieu et à son peuple. Et au verset 5, nous voyons que cette bête va exercer l'autorité pendant 42 mois. Nous avons déjà vu ce que représentent les 42 mois. Cela décrit l'ère de l'Église entre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et son retour. L'activité de la bête ne se limite pas à la période de l'apôtre Jean ou à l'existence de l'Empire romain. Non, mais c'est bien tous les empires qui se succèdent, des empires tyranniques qui s'opposent à Dieu, septième mot sur la feuille, qui s'opposent au royaume de Dieu, qui s'opposent à son peuple. Alors certains pourraient se poser la question, est-ce que cette bête qui monte de la mer est-elle l'Antichrist ? Alors si on comprend le terme Antichrist de manière biblique, la réponse est oui. Il est intéressant de souligner que le terme Antichrist ne se trouve que dans deux livres de la Bible, et l'Apocalypse n'en fait pas partie. La première lettre de Jean a quatre références, et la deuxième lettre en a une. Et Jean utilise le terme d'Antichrist pour décrire des puissances qui étaient déterminées à s'opposer à la révélation biblique concernant le Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 2, 18 par exemple. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Le phénomène existe. Il existe. Il y a maintenant, nous dit l'apôtre Jean. Il y a maintenant. Et 1 Jean 4, verset 3 nous dit « Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue. » Et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist est sans doute représenté par la bête qui monte de la mer. Verset 5, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Nous avons vu dans notre étude la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3, que Paul parle de l'homme impie, ou l'homme du péché, ou de l'homme de l'iniquité, cet homme qui apparaît comme la dernière personne antichrist avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il fera appel à des puissances énormes pour faire la guerre contre les croyants. Mais Paul aussi souligne que l'esprit, la réalité de l'antichrist est déjà présente tout au long de l'histoire de l'Église. Et c'est ce que nous voyons avec cette bête qui monte de la mer. Et puis nous avons ensuite ici aussi une parodie de la Trinité. Huitième mot sur la feuille. Une parodie de la Trinité. Un effet marquant dans ce chapitre, c'est la façon de parodier la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En fait, en commençant avec le chapitre 12, on a l'introduction de la fausse Trinité. On a Satan, le dragon qui veut prendre la place de Dieu le Père. La bête qui monte de la mer est un faux Christ. Et la bête qui monte de la terre, que nous verrons, est un faux Saint-Esprit. Ils ont une fausse épouse. Christ à l'Église comme son épouse. Ici, nous verrons plus tard qu'ils ont Babylone, la prostituée. L'Apocalypse nous montre ici la fausse Trinité qui s'oppose à la véritable Trinité. Et les parallèles entre cette bête qui monte de la mer et le Seigneur Jésus sont nombreux, comme nous allons le voir. Au chapitre 19, nous verrons que le Seigneur Jésus-Christ porte beaucoup de diadèmes. Ici, cette bête porte des diadèmes. Christ porte des noms glorieux qui sont écrits sur lui. Ici, la bête porte des noms de blasphème sur ses têtes. Christ règne sur son peuple qui vient de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Et la bête cherche à avoir un pouvoir sur toute tribu, toute nation, toute langue. Christ est adoré avec le Père. Et la bête va exiger une fausse adoration. L'adoration de sa personne et l'adoration du diable. Une parodie de la Trinité. Voilà la bête qui monte. Mais, deuxième point, nous avons la blessure de la bête. Neuvième mot sur la feuille. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et dans le grec, c'est encore plus clair qu'il y a un parallèle ici entre la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et la contrefaçon de la bête. Au chapitre 5, nous avons vu Christ comme étant l'agneau qui a été immolé. Et c'est le même mot qui est ici. La tête était comme immolée. En chapitre 2, verset 8, Christ a été glorifié parce qu'il est revenu à la vie. Ici, au chapitre 13, verset 3, le même mot est utilisé. La blessure est revenue à la vie. Et la bête semble reproduire la mort et la résurrection de Christ. Et la terre, et le verset 3 nous le dit, la terre a suivi la bête, remplie d'admiration envers ce faux Messie. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ lui a apporté l'adoration de l'Église. La pseudo-mort et résurrection de cette bête n'a pour but que d'obtenir l'adoration, dixième mot sur la feuille, l'adoration du monde pour la bête et pour le diable. La plupart des commentateurs vont identifier cette bête avec l'empereur Néron, un empereur très malveillant qui a régné dans les années 60 après Jésus-Christ. Il est le premier empereur à véritablement persécuter les chrétiens. Il a fait mettre à mort, par exemple, selon l'histoire, les apôtres Pierre et Paul. Et dans un sens, il est vrai que Néron est un exemple évident d'une bête qui blasphème, une bête qui est idolâtre, qui va s'exalter lui-même. Si on vivait du temps des croyants en Asie, au 1er siècle, en entendant la lecture de ce chapitre 13, on penserait directement à Néron. Son règne était dépravé, c'est lui qui va accuser les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome, alors que c'était lui-même, l'empereur, qui avait mis le feu. Et il va persécuter les chrétiens de manière terrible. Il va les faire brûler vifs. Il va les jeter aux fauves. Mais on nous dit que l'histoire, que Néron était si dépravé que même les païens ne pouvaient le supporter. Et en l'an 68, le Sénat l'a chassé. Et le lendemain, Néron s'est suicidé chez lui. Il n'a pas été exécuté en public. Il n'a pas eu non plus d'enterrement public. Mais c'est chez lui, dans l'intimité, qu'il s'est suicidé. Et à partir de là, une légende s'est développée. Une légende qui affirmait que Néron n'était pas mort, qu'il était parti, ou éventuellement qu'il était mort, mais qu'il allait ressusciter pour revenir. Et là, dans ces années 60, 65, 70, l'ennemi de Rome était l'empire des Parthes, à l'est. On l'a déjà vu avec le cavalier et l'arc, le premier sceau en Apocalypse 6. Et les Parthes affirmaient régulièrement qu'ils avaient quelqu'un qui pouvait prétendre au trône de Rome. Et ils l'appelaient, ça c'est bon pour les latinistes, ils l'appelaient Nero Revividus. Néron renaît. Néron revient à la vie. Et le mythe s'est propagé. Et beaucoup de commentateurs pensent que Jean fait allusion ici à cela. Mais ça pose problème. Parce que cela voudrait dire que Jean croyait dans cette légende et qu'il y fasse allusion comme quelque chose de vrai alors que ce n'était qu'un mythe. Néron est réellement mort. Néron n'est pas ressuscité. Et Jean ne va pas laisser croire que ce mythe était vrai. Mais l'autre problème, c'est que la bête que Jean voit ici dans sa vision ne commet pas le suicide. Elle reçoit une blessure. Elle est frappée et elle est blessée mortellement. Et nous verrons plus tard, au verset 14, que la bête a été blessée par l'épée. Dans l'Apocalypse, qui est celui qui manie l'épée? Nous l'avons vu au chapitre 1, l'épée à double tranchant de l'Évangile qui sort de la bouche du Seigneur Jésus. Et au chapitre 19, nous verrons lors de son retour, il détruira ses ennemis avec l'épée. La meilleure manière de comprendre ce que Jean dit ici est de voir ce coup mortel que le Seigneur Jésus-Christ a infligé à Satan par sa mort sur la croix, 11e mort sur la feuille, par laquelle il a enlevé la culpabilité du péché. Ce coup mortel par sa mort, par sa résurrection, et pendant ce premier siècle, par la propagation de l'Église en puissance, en force, voilà un coup mortel que Satan a reçu. Mais cette bête qui persécute les croyants par les empereurs, par l'idolâtrie, fait comme si elle l'avait ressuscité. Et c'est impressionnant pour le monde de voir que finalement, les chrétiens n'allaient pas tout renverser. Que finalement, ce sont les chrétiens qui souffraient. Ce sont les chrétiens qui étaient mis à mort. Et le monde est dans l'admiration de voir cette bête qui finalement donne l'impression de revivre. Mais le point le plus important pour les chrétiens au verset 3, c'est qu'à travers toute l'histoire, Satan et sa bête vont chercher à obtenir l'adoration en se faisant passer pour le Messie. On le voit tout au long de l'histoire, on voit des idées religieuses chez nos dirigeants. Certains, plus que d'autres, demandent l'adoration du peuple. On a le culte de la personnalité. Certains vont même créer des mythes autour de leur vie. On voit cela auprès des dictateurs en particulier. Des choses qui essaient de copier la vie du Seigneur Jésus-Christ en s'attribuant certaines choses dans leur vie. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé, Matthieu 24, verset 24, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matthieu 24, 24. Et l'avertissement se répète ici. Ne soyons donc pas surpris quand on entend parler d'un soi-disant faiseur de miracles, une pseudo-résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ nous avertit, nous savons où il est aujourd'hui. Nous savons où il est. Il n'est pas sur terre. Il est dans le ciel à l'heure actuelle et il règne. Et le jour où il viendra, tout le monde le saura. Sans exception, parce qu'il reviendra dans la gloire. Ce qui nous amène au troisième point, l'ordre du jour de la bête. L'ordre du jour de la bête. Nous en avons deux priorités. La première priorité de la bête, c'est l'établissement d'une fausse adoration pour lui-même. 12e mot sur la feuille. Une fausse adoration pour lui-même et pour Satan. Et c'est vrai que dans l'histoire, il y a quelque chose quand même de dérangeant quand on lit l'histoire. de voir que les tyrans les plus terribles, ceux que l'histoire condamne aujourd'hui, ont sans doute souvent été aussi les plus populaires, du moins à leur époque. On peut penser à Adolf Hitler, par exemple, qui se présente comme le Messie pour le peuple, pour la race aryenne. Les Allemands l'ont suivi. Alors, bien sûr, il y a eu des oppositions, mais dans la majorité, les Allemands l'ont suivi, ils l'ont adulé, ils ont mis leur confiance en lui, comme s'il était leur sauveur jusqu'aux derniers instants. Ils le soutenaient. Il était presque un dieu qui allait les libérer, leur apporter la vie, une vie nouvelle. On le voit ça dans la Corée du Nord aujourd'hui. On voit ça dans l'histoire du Libéria, sous le règne de Charles Taylor. Aujourd'hui, il purge une peine de prison, 50 ans, en Angleterre. Mais il reste toujours populaire chez une certaine partie de la population aujourd'hui. Ces choses-là n'arrivent pas par hasard. Un commentateur dit, les dictateurs créent leur propre mythologie, où ils ont quelqu'un pour le faire pour eux. Le plus important, c'est qu'ils demandent la soumission sans question du peuple. Une chose que seul Dieu a le droit d'exiger. L'histoire que nous regardons nous montre ce que Jean avait anticipé. Il montre que grâce à la puissance de manipuler et d'impressionner que Satan leur donne, les tyrans se déifient en quelque sorte. Ils se déifient. Verset 4, « Qui est semblable à la bête ?» Les gens tombent sous le charme. « Qui peut combattre contre elle ?» Vous vous demandez peut-être où vous avez déjà entendu ces paroles. Vous les avez entendues dans l'Ancien Testament. Vous les avez entendues, ces paroles qui font référence à Dieu. Moïse a parlé de cette manière après la traversée de la mer Rouge, Exode 15, verset 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» Michée aussi. Michée 7, verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ?» La Bible souligne que Dieu seul est incomparable. 13e mot sur la feuille. Dieu seul est rempli de gloire. Mais par sa puissance sur terre, par ses manifestations impressionnantes, la bête va s'attribuer une gloire divine qu'il a usurpée. Une chose à souligner ici, c'est que la simple capacité de mettre en avant une puissance surnaturelle n'est pas une preuve de divinité. Et l'apôtre Jean nous met en garde dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Satan peut employer des puissances surnaturelles pour amener une fausse adoration de sa personne. Nous, nous devons éprouver, 14e mot sur la feuille, éprouver tous les esprits avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas le seul à suggérer des pensées, des désirs, des croyances. Nous devons tout éprouver avec la parole de Dieu. Satan utilise cette puissance pour attirer l'adoration de sa personne. Et on sait qu'il veut le faire, parce qu'il a même essayé de le faire avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Matthieu 4, la tentation du Seigneur Jésus dans le désert. Satan vient vers lui, et nous lisons versets 9, 8 et 9. Le diable le transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Voilà ce que recherche l'adversaire, voilà ce que recherche le Satan et la bête. Comment nous, chrétiens, comment est-ce que nous pouvons identifier une fausse puissance ? Un faux évangile. Comment est-ce que nous pouvons identifier la fausse adoration de la bête ? parce que ces choses viennent toujours de la même manière. Ce sera toujours une puissance terrestre. Ce sera toujours une gloire terrestre. Ce sera toujours contraire à la parole de Dieu. 15e mot sur la feuille. Cela va toujours détourner les gens de la foi en Christ pour les amener à la foi dans la bête. Quand on nous demande de déclarer notre adhésion à une institution humaine ou à un gouverneur terrestre ou à une adoration, nous devrions voir derrière cela la bête qui exerce la puissance de Satan et qui usurpe le trône de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tous les gouvernements sont mauvais. L'apôtre Paul, rappelez-vous, fait usage du fait qu'il était citoyen romain dans le livre des Actes. Paul est souvent aidé par des gouverneurs romains pour plus honnêtes que d'autres. Mais la bête entre dans ce système et progressivement elle va prendre le contrôle. Et on sait que cela s'est produit quand la gloire doit revenir à l'homme ou à l'État. Et la soumission que seul Dieu peut exiger est maintenant demandée par la bête. Un commentateur dit ceci, « Cela se passe dans les pays démocratiques de la manière suivante. Satan veut que les gens regardent à l'État comme si l'État était le Messie. Quand le gouvernement est mis en avant comme le remède de tous les maux, économique, social, médical, moral, même spirituel, l'homme regarde à l'État et en fait une idole au lieu de regarder à Dieu. Jean dit que cette idolâtrie envers la bête sera à peine subtile. Verset 5, c'est quelque chose que l'on verra toujours tout au long de l'histoire. Des blasphèmes contre le nom de Dieu, contre la doctrine, contre la personne et l'œuvre de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons des païens qui attaquent l'enseignement de la Bible, des athées qui essayent d'argumenter contre l'existence de Dieu. On a la perversion qui avance comme si c'était une bonne chose. On pourrait citer toutes sortes d'exemples, mais j'en ai choisi simplement quelques-uns. De la plume de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, ministre entre 2012 et 2014. La première citation, il parle de l'école dans un livre qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée ». Et je voudrais vraiment que vous fassiez attention aux mots qu'il utilise. Donc on prend l'argumentation, d'où l'importance de l'école au cœur du régime républicain. C'est à elle qu'il revient de briser ce cercle, de produire cette auto-institution, d'être la matrice qui engendre en permanence des républicains pour faire la République. L'école doit opérer ce miracle par l'engendrement par lequel l'enfant, dépouillé de toutes ses attaches pré-républicaines, va s'élever jusqu'à devenir le citoyen, sujet autonome. C'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Voilà le langage de Vincent Peillon en 2008. 2011, dans un autre livre qui s'intitule « Une religion pour la République », deux points, « La foi laïque » de Ferdinand Buisson, toujours Vincent Peillon. Il parle de cette foi laïque, car toute l'opération consiste bien avec la foi laïque à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église, non pas seulement l'Église catholique, mais toute Église et toute orthodoxie. Déisme humain, humanisation de Jésus, religion sans dogme, ni autorité, ni Église. Toute l'opération de la laïcité consiste à ne pas abandonner l'idéal, l'infini, la justice, l'amour, le divin, mais à les reconduire dans le fini, sous l'espèce d'une exigence et d'une tâche à la fois intellectuelle, morale et politique. » Et encore, la troisième citation vient d'un entretien qu'il a donné. « Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s'émanciper, car le point de départ de la laïcité, c'est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. » Un entretien qu'il a donné en septembre 2012. Et le gouvernement et les gouvernements se suivent. Et voilà, voilà ce qu'ils veulent faire. Voilà ce qu'ils veulent faire. On pourrait aussi parler de la famille, du mariage, de la théorie du genre, de l'évolution, toutes ces attaques. D'où viennent-elles? Nous le savons. Nous connaissons l'auteur. C'est cette bête qui combat l'Église. Cette bête qui combat l'Église, c'est le mal à l'œuvre sous toutes ses formes. Les empereurs romains, eux, étaient aussi très directs. Ils ont fait frapper des pièces de monnaie avec, sur lesquelles ils affirmaient leur supposée divinité. Et la bête sera toujours directe. Elle proférera des paroles de blasphème. Et elle parle, elle blasphème contre Dieu, mais le verset 6 nous dit aussi, elle blasphémait contre Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Elle va blasphémer contre l'Église. Quelque part, c'est encourageant, parce que nous sommes le tabernacle de Dieu. Pour blasphémer contre Dieu, il faut blasphémer contre l'Église. C'est ce que Néron a fait. Néron, quand il a accusé les chrétiens d'avoir mis le feu à la cité de Rome et qu'il les a ensuite persécutés. Et la bête aura toujours des serviteurs dans les médias qui vont se moquer de la vie chrétienne. Et en particulier, si un chrétien qui est connu va chuter, ce qui arrive, parce que nous sommes encore dans ce monde, et nous chutons, c'est une réalité. Mais les chrétiens de ce monde, les médias de ce monde vont prendre cet événement et vont l'amplifier, ils vont faire tout un foin, vont faire un scandale, ils vont ridiculiser les chrétiens les plus sincères, ils vont ridiculiser leurs vertus en disant que tout cela c'est de la folie, tout cela est dépassé, tout cela manifeste une ignorance. On va accuser les chrétiens aujourd'hui de toutes les divisions qui existent. On dira même que ce sont les chrétiens qui détruisent les familles, qui conduisent la nation à sa perte, que ce sont des fanatiques dérangés, que ce sont eux qui troublent la paix. Et comme politique, les politiques, comme Néron, vont allumer le feu. Et puis ils vont accuser les chrétiens d'en être les responsables afin de pouvoir les persécuter. Et la bête, donc, va tout faire pour chercher et exiger l'adoration de sa personne. Mais la bête ne s'arrête pas là. Son deuxième ordre du jour, sa deuxième priorité, c'est de persécuter, 16e mot sur la feuille, de persécuter violemment les chrétiens qui refusent de l'adorer. Parce que les chrétiens savent que seul Dieu est digne d'être adoré. Nous avons déjà souligné le lien qui unit le livre de l'Apocalypse avec le livre de Daniel. Et l'image de la bête est une image très, très forte. Jean et Daniel, en fait, vivaient dans une situation similaire. Jean et les églises en Asie doivent affronter la bête qui est Domitien et l'Empire romain et sa persécution. Daniel et ses amis doivent affronter, en quelque sorte, la bête originelle, Nebuchadnezzar. Le premier de ces quatre bêtes qui sont décrites en Daniel. Et Daniel 3 nous rappelle que Nebuchadnezzar a fait élever une statue immense, une statue en or qui le représentait. Il a exigé à tout le monde de venir et d'adorer, de se courber devant cette statue, de l'adorer. Mais nous lisons l'histoire de ces trois amis de Daniel qui refusent, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer la bête. Et tout cela se passe tout au long de l'histoire. Les empereurs romains ont persécuté l'Église primitive. Les rois catholiques ont combattu les protestants au temps de la Réforme. Ils ont combattu les huguenots. Staline et d'autres au XXe siècle ont combattu les croyants. Partout, il y a eu une Église fidèle qui refusait d'adorer la bête. La bête, en fait, a fait et fera toujours la guerre contre elle. Et le verset nous dit que la bête aura du succès, verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, 17e mot sur la feuille, la bête aura du succès. Est-ce qu'on voit? On voit cela du temps de l'Empire romain. Jean écrit, nous l'avons dit, vers l'an 95, il dit à ses croyants, n'abandonnez pas, vous allez être persécutés mais n'adorez pas cette bête qui va vous persécuter. Et les deuxième et troisième siècles nous parlent de cette persécution qui fait rage. L'Église, à la fin du troisième siècle, semble être anéantie, semble être balayée. L'idolâtrie païenne, elle est partout. Et on adorait les empereurs pendant des années. On peut avoir la même chose au XXe siècle. Les communistes arrivent en Chine, les prédicateurs sont arrêtés, l'Église est devenue souterraine. Qu'est-ce qui va arriver ici en Occident? Cet Occident qui a connu la réforme. Le monde fait tout pour détourner l'attention des humains. Ça commence même au plus jeune âge. Le monde va tout faire pour détourner l'attention, pour que les enfants ne viennent pas au culte un dimanche matin. La perversion existe dans ce monde. Elle est considérée comme quelque chose de normal. Il n'est pas difficile, au vu des événements, d'imaginer que dans un futur pas très lointain, le simple fait de lire sa Bible sera considéré comme un crime. Et tout cela est l'œuvre de la bête. Et les versets 7 à 8 nous disent que la bête a autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre adoreront. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans notre monde. Partout où nous allons trouver une forme de corruption. Nous allons trouver une influence de Satan, une puissance qui est dirigée contre les croyants, contre l'Église. Tout cela à cause de la domination temporaire qui a été accordée à la bête. Il lui fut donné. La bête qui monte de la mer fait avancer la cause idolâtre de Satan avec une force, une violence et une autorité démoniaque. Mais Jean décrit la vision de cette bête pour nous avertir. Nous devons savoir à quoi nous attendre. Les églises en Asie devaient savoir qu'elle faisait face à la bête représentée par l'empereur Domitien. Il allait exiger qu'on l'adore et il allait persécuter avec violence ceux qui ne le feraient pas. Mais on terminait par trois encouragements dans notre passage. Le premier, c'est que Jean nous souligne et nous rappelle que notre espérance dans ce monde tourmenté est une espérance qui est sûre, 18e mot sur la feuille. Nous faisons face à ce dragon et à cette bête qui monte de la mer, leur domination et leur puissance qui est dirigée contre l'Église, contre nous. Où est-ce que nous allons trouver le salut? Et la réponse est auprès de celui qui est le souverain, de celui qui est véritablement le seul souverain, celui qui possède la domination sur toute chose, sur le monde, mais aussi sur le dragon et sur la bête. Remarquez que dans les versets 5 à 7, la bête ne possède pas l'autorité. Les versets nous disent « Il lui fut donné ». Cette autorité, il la reçoit. Il lui fut donné de faire ceci ou de cela. La bête reçoit la permission de faire ceci ou de cela. La bête n'est pas véritablement souveraine. Un vrai souverain n'a pas besoin de demander l'autorisation. Un vrai souverain n'a pas besoin de demander. Dieu est celui qui donne la permission pour l'accomplissement de son dessein. C'est lui qui est souverain. C'est lui le seul vrai souverain. Ce qu'il ordonne va se passer. Et Jean veut que les croyants se rappellent que par la foi en Christ, par notre union avec Christ, nous sommes avec, dans le camp de Dieu, que notre salut est absolument et éternellement sûr. Même la bête, avec tout son pouvoir, toute sa puissance, ne pourra pas détruire ce salut que nous avons en Christ. Il précise au verset 8 que tous les habitants de la terre adoreront la bête. Mais il précise ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ce n'est pas le monde entier, donc, parce que Christ a son peuple. Et, là, et ils sont prédestinés par Dieu avant la fondation du monde. Leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Rappelez-vous, c'est l'agneau qui a ouvert le livre. C'est l'agneau qui a ouvert le sceau. C'est lui qui est vainqueur. C'est lui qui est mort et ressuscité et qui règne pour toujours. C'est lui qui accomplit la volonté de son Père. C'est lui, son royaume n'aura jamais de fin. Il ne veut pas qu'on se demande si notre nom est écrit dans le livre de vie. Non, il nous demande si nous croyons en lui. 19e mot sur la feuille. Si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, alors oui, cela veut dire que notre nom est écrit dans le livre de l'agneau. Cela veut dire que notre salut est selon sa volonté souveraine et que nous sommes en sécurité pour toujours. L'agneau de Dieu a versé son sang comme un sacrifice pour nous libérer du péché. Et par la foi en lui, nous avons la vie éternelle. La bête peut nous frapper dans notre corps, mais elle ne pourra jamais enlever la vie que Dieu nous donne en Christ. Nous ne l'adorerons pas parce que nous sommes unis à Christ pour toujours. En Luc chapitre 10, nous avons cet événement. Les disciples, rappelez-vous, étaient partis pour évangéliser. Ils ont même, nous dit l'apôtre, chassé des démons. Ils rentrent et se réjouissent de ce qu'ils avaient été, ce qui avait été accompli. Et Jésus les reprend. Il leur dit de ne pas se réjouir d'avoir chassé les démons, mais plutôt de se réjouir du fait que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. C'est toute la gloire dont nous avons besoin. Savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie. Nous vivons dans une période où les choses ne semblent pas s'améliorer, où la bête même semble être plus proche de nous qu'elle ne l'était de ceux qui nous ont précédés. Mais si nous sommes à Christ, nous savons et nous pouvons savoir avec certitude que nos noms sont écrits dans le livre de vie, que nous sommes en sécurité, que la bête ne pourra pas nous détruire, détruire notre âme. Nous sommes au Seigneur pour l'éternité. Notre espérance est sûre. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Personne. La deuxième chose, c'est que nous devons comprendre notre appel. 20e mot sur la feuille, 10e verset. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Jean nous dit qu'il faut nous attendre à ces choses. C'est souvent dans la volonté de Dieu que son peuple soit affligé, même injustement, qu'il soit même en captivité. Et quand cela arrive, nous sommes appelés à y aller en tant que chrétiens, en disant « voilà, voilà une opportunité pour témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ. Même en étant persécuté, je vais rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans ses souffrances et j'accepte la volonté de Dieu pour moi, pour la gloire de son nom. Je serai un témoin pour l'Évangile. » Remarquez que Jean ne dit pas que nous devons combattre la bête avec l'épée. Nous avons vu au chapitre 12 que nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Pierre, dans sa première lettre au chapitre 2, nous rappelle que notre grand exemple est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, 1 Pierre 2, 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et Jérémie, par exemple, en Jérémie chapitre 29, le prophète écrit une lettre à ceux qui partent en exil. Et il leur dit en quelque sorte, oui, vous partez en exil, mais rappelez-vous, Dieu est souverain, c'est donc lui qui vous envoie en exil. Allez-y donc dans la foi. Dieu, dans sa souveraineté, vous sauvera par cet exil. Dieu va vous utiliser en Babylonie. Allez-y en confiance. Ce n'est pas que le plan de Dieu ne s'exécute pas. Non, cela fait partie de son plan. Allez-y avec foi. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie écrit cela à un peuple qui va, qui se dirige vers son lieu de captivité, vers sa persécution. Et nous sommes appelés, nous aussi, à avoir cette même foi. Paul le rappelle en Romains 8, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il donne la liste dans les versets précédents. Rien ne peut nous séparer. Rien ne pourra nous séparer. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La troisième chose, nous avons ici l'appel à persévérer, 21e mot, persévérer dans la foi. C'est ici la victoire. Notre victoire n'est pas dans l'épée, pas dans une gloire humaine, pas dans des élections. Ce n'est pas parce que le monde est pour nous. Non, la victoire, c'est parce que Christ est pour nous. Christ est avec nous. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Verset 10, c'est un appel à persévérer et à continuer à croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Satan, avec la bête et avec ses disciples, pense que nous sommes vaincus. Et c'est vrai que quand on regarde la situation aujourd'hui, on pense que cela est vrai. Les puissances des ténèbres pensent nous avoir écrasés. Nous n'avons que peu d'influence dans le monde. Nous perdons, nous semblons perdre du terrain. Ces puissances semblent être victorieuses avec toute leur vigueur perverse. Mais en persévérant dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, en acceptant avec joie la souffrance que Dieu a ordonnée pour son peuple, c'est Christ et nous qui avons la victoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les deuxième et troisième siècles de notre histoire, on voit l'Église qui est affligée, qui est persécutée. L'idolâtrie était partout. Qu'est-ce qui se passe au IVe siècle? Au IVe siècle, même l'empereur se prosterne devant le Seigneur Jésus-Christ. Même l'empereur se prosterne devant le Seigneur Jésus-Christ. La victoire de la foi du peuple de Dieu, ce peuple qui adore le seul vrai Dieu, qui refuse la bête, même sous l'affliction. Voilà notre victoire. Voilà notre victoire. Un autre exemple est celui du temps de Nebuchadnezzar. Les trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, refusent de se prosterner devant l'idole. Nébuchadnezzar, nous l'avons dit, les fait jeter dans une fournaise ardente. Les hommes disent qu'ils préfèrent mourir et obéir à Dieu plutôt que de se prosterner devant l'idole. Ils n'ont pas été consumés par le feu. Nébuchadnezzar ne les a pas détruits. Il les a vus, n'ayant aucune trace de mal, accompagnés par un homme dont l'apparence ressemblait à celle du Fils de Dieu. Daniel 3, 25. Alors que nous persévérons dans la foi, nous nous agrippons à celui qui est notre tout, au Seigneur Jésus lui-même. 22e mot sur la feuille. Il est tout ce que nous avons. Mais avec lui, nous avons tout. Avec lui, nous avons toutes choses. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la justification devant Dieu. Nous avons l'adoption dans la famille de Dieu. Nous avons un héritage dans la gloire. Et même dans cette vie sur terre, nous avons l'aide quotidienne de l'Esprit, de son Esprit qui, par sa parole, nous enseigne, nous exhorte, nous conforte, nous nourrit, même sous les afflictions. Persévérons donc même dans un monde qui nous est hostile. L'Éternel, dans le livre, par la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 43, les premiers versets nous disent ceci, « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Merveilleuse promesse pour nous. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à comprendre ces temps dans lesquels nous vivons, mais qu'il nous aide aussi à nous accrocher toujours plus, à nous agripper toujours plus à celui en qui nous avons tout, au Seigneur Jésus-Christ, et à lui seul, et à persévérer jusqu'à la fin, avec son aide. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.